tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Maïlys Besserie, bonjour à tous. Alors que le poumon vert de la planète, l'Amazonie, ne cesse de s'embraser, la communauté internationale tente de réagir et de faire pression sur le président brésilien Bolsonaro. Les ONG également essayent de mobiliser sur le sujet. Développement à suivre, signé Juliette G et Pierre-François Plessis. Dans cette édition, nous évoquerons le G7 qui démarre demain à Biarritz. Emmanuel Macron prépare toujours la rencontre en poursuivant ses discussions avec différents représentants étrangers. Aujourd'hui, il reçoit à l'Elysée Mohammad Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères iranien. Pendant ce temps, à Biarritz, le sommet se prépare. Les forces de l'ordre, très nombreuses sur le terrain, profitent de l'événement pour faire entendre leurs revendications et leur ras-le-bol. Reportage à suivre de Rosalie Lafarge. Les relations entre la Corée du Sud et le Japon sont de plus en plus glaciales. Séoul vient de décider de mettre fin à un accord de renseignement militaire avec Tokyo. Qu'est-ce qui explique cette dégradation de cet été entre deux pays qui déjà avaient du mal à s'entendre? Nous entendrons les explications de Frédéric Ojardias, notre correspondant à Séoul. Au sommaire de la grande table d'été, Maïlys Besserie.
Et ben au sommaire, il y a Écrire la folie à l'occasion de du premier roman de Victoria Mas, Le bal des folles chez Albin Michel. Puis nous ferons le portrait du réalisateur américain Ira Sachs.
Merci à vous et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La communauté internationale tente de faire pression sur le président brésilien Jair Bolsonaro afin de protéger l'Amazonie. Différents pays sont nombreux à réagir, particulièrement depuis hier. Par exemple, ce matin, l'Irlande envisage de bloquer la ratification d'un accord commercial négocié entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur pour tenter justement de faire bouger le Brésil. Voici les mots du Premier ministre irlandais, Leo Varadkar. Il est hors de question que l'Irlande vote en faveur de cet accord si le Brésil n'honore pas ses engagements en matière d'environnement. Ce matin également en France, Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie, s'est dite prise de dégoût. Elle espère que certains responsables internationaux répondront de leurs actes devant la justice concernant l'Amazonie. Elle répondait justement à une question concernant Jair Bolsonaro. Si la communauté internationale semble se mobiliser particulièrement, c'est parce que ces incendies ont atteint un niveau record. Bonjour Juliette G.
Bonjour.
Alors nous allons faire tout de suite un point avec vous justement sur la situation.
Il est difficile d'estimer exactement la superficie en feu en Amazonie brésilienne, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plus de 2500 nouveaux départs d'incendie ces dernières 48 heures. Et les flammes progressent, comme vous le dites, à une vitesse folle. Les états du Roraima et du Rondônia au nord et au sud sont particulièrement affectés. Les nuages de fumée se répandent désormais bien au-delà de la forêt, jusqu'à la côte atlantique. Hier, les habitants de Sao Paulo, à 3200 km de là, ont été plongés dans l'obscurité dès 15 heures, puisque la ville a été recouverte par un nuage de carbone. Et dans certaines contrées, la pluie était grise tant elle était chargée en cendres. Les pays voisins du Brésil sont également touchés, particulièrement au Paraguay, au Pérou et en Bolivie. Pour le gouvernement brésilien climato-sceptique, la sécheresse serait à l'origine des incendies. Mais ce n'est pas l'avis des experts environnementaux. Selon eux, c'est la déforestation qui est en cause. Le défrichement par brûlis des zones forestières pour les transformer en terres cultivables aurait notamment provoqué les feux. Selon l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, la déforestation en juillet 2019 a été 4 fois plus importante par rapport à juillet 2018. De même, depuis le début de l'année, le nombre d'incendies au Brésil a augmenté de 85% par rapport à l'année dernière, à la même période.
Merci à vous, Juliette G. Alors, les réactions à ces incendies en Amazonie se multiplient également du côté des ONG. Elles sont très nombreuses à hausser le ton à propos de ce que l'on appelle le poumon vert de la planète. Bonjour, Pierre-François Plessis.
Bonjour.
Alors, l'ONG Greenpeace, par exemple, dénonce non seulement la politique de Jair Bolsonaro, qu'elle voit comme une cause de ces incendies, mais appelle également l'État français à beaucoup plus de fermeté sur le sujet.
Emmanuel Macron a réagi hier soir aux incendies avec un tweet, je cite, notre maison brûle, mais les ONG dénoncent l'hypocrisie du président sur le dossier brésilien. Le porte-parole de Greenpeace, Clément Sénéchal, réclame des actions concrètes.
Ça vient un peu tard, hein, ces feux, ça fait des semaines qu'ils se sont déclarés. Ça vient en réponse surtout à une mobilisation de l'opinion internationale et une mobilisation citoyenne. Faire monter la pression diplomatique, tant mieux. Après, ce qu'il faudrait, c'est encore une fois mettre en cohérence les discours et les actes et se poser la question très concrètement de la ratification du Mercosur qui va fortement accélérer la déforestation en Amazonie.
Hier, une trentaine d'ONG du réseau Action Climat, dont Greenpeace, ont annoncé qu'elles comptaient boycotter le sommet du G7. Elles dénonçaient leur mise à l'écart par l'organisation. L'Élysée a réagi dans la foulée en débloquant des accréditations. Les associations pourront finalement accéder à la presse, mais elles estiment que cette réponse est trop tardive.
Il n'a jamais daigné consulter la société civile et jusqu'au dernier moment, il tente d'entraver son travail. Surtout qu'il y a une défiance qui vraiment se crée hein, entre Emmanuel Macron et les acteurs du climat du fait de l'inaction climatique permanente d'Emmanuel Macron. Nous, on ne va pas participer à ça et on veut montrer que les conditions n'ont pas été réunies pour la prise en compte de la société civile dans ce G7.
Et le réseau Action Climat a décidé de boycotter également un déjeuner prévu aujourd'hui avec le président français.
Merci à vous Pierre-François Plessis. Le président français Emmanuel Macron prépare toujours actuellement ce G7 en recevant différents responsables internationaux. Aujourd'hui, il s'entretient avec Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne. Ils vont évoquer ensemble l'accord nucléaire iranien et tenter de le sauver. On sait que cet accord est considérablement fragilisé depuis le retrait américain. Il y a des propositions sur la table, tant du côté français que du côté iranien, et nous allons travailler sur ces propositions. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre iranien. Ce dossier particulièrement délicat sera bien entendu sur la table des dirigeants du G7. Et à Biarritz, justement, à l'occasion de cet événement exceptionnel qui démarre demain, on le rappelle, les forces de l'ordre s'apprêtent à vivre encore un week-end sous pression. Ces policiers très nombreux qui sont mobilisés pour la sécurité du G7 profitent des projecteurs braqués sur Biarritz pour faire entendre leur mécontentement. En fin de journée, autour de 18h tout à l'heure, ils vont organiser un barbecue de la colère à proximité de Biarritz pour dénoncer les missions qui s'enchaînent, les amplitudes horaires épuisantes ou encore les heures supplémentaires non payées et la surcharge de travail. C'est un reportage de Rosalie Lafarge.
En visite à Biarritz cette semaine, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, a été interrogé sur l'état moral des forces de l'ordre.
Je peux vous dire qu'il est excellent.
Pas vraiment en fait, en tout cas pas chez tous les policiers.
Là, le ras-le-bol est là, la cocotte minute peut exploser à tout moment, donc le moral est pas forcément au beau fixe.
Pour le secrétaire départemental unité SGP Police FO des Pyrénées-Atlantiques, Christophe Labarthe, ce G7 ne s'aborde pas dans les meilleures conditions, loin de là.
C'est compliqué parce qu'on sait qu'on est la cible prioritaire et que les provocations seront là. Tout le monde est à cran parce que la fatigue est là, physique, mentale. Le problème du policier, c'est qu'un événement finit, un autre commence, donc il y a cet enchaînement incessant. On s'attend à une rentrée sociale compliquée peut-être avec la réforme des retraites. Là on sort de gilets jaunes, c'est pas encore fini, ça risque de repartir. Quand on a un week-end sur 6 et que ce week-end-là on est rappelé parce qu'il y a un événement, la vie de famille est mise complètement à l'écart. Donc le problème doit être pris à la racine et le souci c'est que depuis des années on nous promet mais rien ne se passe.
Emmanuel Macron s'est dit très vigilant sur l'état de fatigue des forces de l'ordre mais il a également dénoncé des blessures inacceptables lors du mouvement des gilets jaunes chez les policiers comme chez les manifestants. Le syndicat Alliance Police Nationale aurait préféré entendre le président annoncer un vrai plan de lutte anti-suicide alors que 47 fonctionnaires ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année.
Rosalie Lafarge, on vient de l'apprendre, un accord européen vient d'être trouvé pour répartir les 356 migrants de l'Ocean Viking, le navire humanitaire affrété par Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée. La France va prendre en charge 150 d'entre eux. L'Allemagne, le Portugal, la Roumanie, le Luxembourg et l'Irlande sont impliqués également dans cette solution qui a été trouvée. Le navire patiente depuis quelques 14 jours dans les eaux internationales entre Malte et la Sicile avec à son bord 356 personnes secourues. La plupart d'entre elles ont fui la Libye pour échapper à un large éventail de mauvais traitements et de détentions arbitraires. Médecins Sans Frontières confirme que la solution a donc bien été trouvée, mais estime dans le même temps que les Européens doivent désormais se doter d'un mécanisme prévisible et non plus s'en remettre à des négociations au cas par cas. Israël a mené cet été plusieurs frappes militaires en Irak, c'est ce que rapporte le quotidien américain le New York Times. Selon deux responsables américains, plusieurs cibles irakiennes ont été attaquées par l'État hébreu donc ces derniers jours. Un haut responsable du renseignement au Moyen-Orient affirme qu'une base située au nord de Bagdad a été bombardée en juillet dernier. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ces différentes interventions? On écoute les précisions de notre correspondante à Jérusalem, Marine Vlaovic.
Interrogée hier par une chaîne israélienne sur l'implication de l'État hébreu dans ses bombardements en Irak, Benjamin Netanyahou s'est contenté de répondre qu'Israël agit dans de nombreuses régions pour contrecarrer les plans de l'Iran. Pas de revendication nette et précise donc, mais un début de clarification sur les mystérieuses frappes visant les dépôts d'armes d'une milice irakienne chiite soutenue par l'Iran au nord de Bagdad il y a quelques jours. Deux experts américains cités par le New York Times sont formels. Ces bombardements sont le fait de l'État hébreu, tandis que la milice en question pointe du doigt Israël et les États-Unis pour des attaques répétées sur ses bases militaires pro-iraniennes. En juillet dernier, des positions ont également été visées à au moins deux reprises. Il s'agirait des premiers raids israéliens sur l'Irak depuis 38 ans. En 1981, une attaque aérienne avait détruit le réacteur d'Osirak pour tenter d'enrayer le programme nucléaire irakien. Ces révélations du New York Times sont un aveu évident de la nouvelle stratégie israélienne contre Téhéran, c'est-à-dire ne plus se contenter de frapper des bases iraniennes en Syrie, mais élargir son champ d'action au risque de mettre en difficulté les troupes américaines déployées en Irak, selon les experts.
Marine Vlaovic. Situation particulièrement explosive entre Syriens et Turcs. En Syrie, les forces du régime actuellement encerclent un poste d'observation de l'armée turque près de la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Les soldats de Bachar al-Assad ont déjà conquis plusieurs localités et villages des alentours. Ils se sont notamment emparés de la ville de Khan Cheikhoun après le retrait des djihadistes et des rebelles. On rappelle que la Turquie est frontalière de cette région et qu'elle soutient quelques groupes rebelles syriens. La tension continue de monter également entre la Corée du Sud et le Japon. Séoul vient de décider hier de mettre fin à un accord de partage en matière de renseignements avec Tokyo. Depuis cet été, les relations qui étaient déjà tendues entre les deux pays ne cessent de se dégrader davantage. Ils se sont appliqués mutuellement des sanctions commerciales et aujourd'hui, ils en arrivent donc à rompre cet accord général sur la sécurité du renseignement militaire. Frédéric Ojardias est notre correspondant à Séoul.
La querelle historique et commerciale entre la Corée du Sud et le Japon affecte désormais le domaine de la sécurité et de la défense. Suite à la décision de Tokyo de compliquer les importations de produits nippons en Corée, le gouvernement sud-coréen a conclu que continuer à échanger des renseignements militaires sensibles avec le Japon n'était pas dans son intérêt, a expliqué un porte-parole sud-coréen. Cet accord annulé permettait par exemple au Japon de transmettre rapidement à la Corée du Sud des images satellites de sites balistiques nord-coréens. La Corée, de son côté, pouvait partager avec le Japon les renseignements obtenus par son réseau d'espions et d'informateurs au nord. Ce retrait décidé par Séoul est donc une escalade majeure dans le conflit qu'il oppose à Tokyo. Cet été, le Japon a frappé la Corée du Sud de mesures de rétorsion commerciale après que la Cour suprême coréenne a condamné des entreprises japonaises pour travail forcé pendant la guerre. À l'annonce du retrait sud-coréen, les États-Unis ont exprimé leur forte inquiétude et leur déception. Washington avait en effet mis des années à convaincre ses deux alliés militaires de signer cet accord, mais le gouvernement de Donald Trump, qui refuse depuis le début de la crise de jouer le rôle de médiateur, a une forte responsabilité dans l'aggravation rapide du conflit entre Séoul et Tokyo.
Frédéric Ojardias à Séoul. Le mouvement de contestation du peuple russe contre le régime de Vladimir Poutine va s'intensifier et même s'étendre. C'est en substance ce que déclare l'opposant russe numéro 1 Alexei Navalny. Il est sorti de prison ce matin. Il avait été condamné à 30 jours de détention pour avoir appelé à une manifestation interdite par les autorités et il a tenu un discours face à la presse. Voici ses mots. Les forces russes veulent délibérément arrêter des dizaines de personnes et en frapper des centaines. Cela montre que ce régime n'a plus aucun soutien. Et de conclure, je n'ai aucun doute qu'en dépit de ces actes authentiques d'intimidation et de terreur qui vont s'intensifier, le régime regrettera sérieusement d'avoir agi ainsi. Fin de citation. En Russie, toujours hier, le pays lançait dans l'espace un robot humanoïde. Nous vous en parlions aujourd'hui. C'est une centrale nucléaire flottante qui est envoyée depuis Mourmansk au-delà du cercle polaire arctique. Objectif à terme, fournir l'énergie nécessaire aux plateformes d'extraction pétrolière et gazière situées dans l'extrême nord du pays. Un programme considéré comme étant un risque pour les organisations écologistes. À Moscou, Claude Bruyot.
L'académique Lymonlossov, du nom du grand savant russe du XVIIIe siècle, une fois sur place dans le port arctique de Pievek, à plus de 7000 km au nord-est de Moscou, sera en capacité avec ses deux cœurs nucléaires flottants de produire 70 mégawatts d'électricité, soit la consommation d'une ville de 100 000 habitants. Mais l'objectif, pour profiter du réchauffement climatique, sera surtout de fournir de l'énergie aux nouvelles plateformes d'extraction pétrolière et gazière installées souvent loin des réseaux d'électricité dans le grand nord russe. Rosatom, l'agence fédérale chargée du développement de l'énergie nucléaire, assure que la centrale flottante est insubmersible, peut résister à des vagues de plus de 7 mètres et que son système de refroidissement fonctionnerait plus de 24 heures en autonomie en cas d'accident. Insuffisant toutefois pour rassurer les organisations de défense de l'environnement qui, comme Greenpeace par exemple, pointent l'absence de protection en béton autour des réacteurs nucléaires et craignent aussi la livraison future de ces prototypes à des pays aux normes de sécurité aléatoires.
Le ciel du jour en France, quelques averses localement orageuses sur les Alpes. Partout ailleurs, il fait beau, les températures montent jusqu'à 32 dans les Pyrénées-Atlantiques. Édition préparée avec Julien Loquet et Nicolas Paumet, réalisée à la technique par Valentin Bobinet.